chaud. Il faut que je parte, mon corps.
Bon, vas-y.
Saranga. Là, tu veux pas me présenter? C'est moi qui me présente
si,
tout de suite.
Je vais me présenter. Je vais tout à fait te présenter. Alors, salut Sarah Chaud.
Salut Saranga.
Rebienvenue dans ces 25 heures de la matinale de Radio PSG Matin. Parce que tu es passé tout à l'heure nous voir, en fin de journée, je crois. Je sais plus trop
en
quel.
Début de soirée.
En début de soirée.
Enfin,
en début de soirée.
Où on pose le...
Ouais, moi le je sais plus où on en est. Hein. Donc voilà, c'était à peu près par là.
Ah.
Et donc tu vas nous lire un livre.
Je vais vous lire plusieurs petits morceaux de livre. Et Saranga,
ouais.
Tu connais Sylvie et Bruno, pas Sylvie et Bruno Retailleau, mais Sylvie et Bruno, le roman de...
Bah non, de Lewis Carroll.
Ouais.
Non, c'est je ne connais pas ce roman de Lewis Carroll.
Personne ne connaît en général, enfin peu de gens connaissent.
Non, moi je connais que l'autre, Alice au Pays des Merveilles et De l'autre côté du miroir. Je crois que je me suis arrêtée là.
C'est pour ça que c'était mon plaisir de vous introduire à toutes les personnes, Marie, Barbara, toutes les personnes qui sont peut-être déjà réveillées, déjà sur leur bicyclette et toutes les autres, de vous présenter Sylvie et Bruno. Voilà. Donc c'était un très chaud après-midi, trop chaud même pour se promener. Autrement, les choses ne se seraient pas passées ainsi, je crois. Et d'abord, j'aimerais savoir, chers enfants qui m'écoutent, pourquoi les fées devraient toujours nous dicter notre devoir, nous sermonner quand nous avons tort, et nous ne jamais rien leur apprendre. Je vais mettre le casque, je crois. Alors... Vous n'allez pas me dire que les fées ne sont jamais gourmands, ni égoïstes, ni de mauvais yeux, car cela n'aurait aucun sens. Alors, ne pensez pas que cela ne leur ferait pas de mal de se faire un peu gronder et punir de temps en temps. Bon, une autre question. Quel est le meilleur moment pour voir les fées? Je crois que je peux tout dire là-dessus. La première condition est qu'il doit faire très chaud, ce que nous pouvons considérer comme acquis. On doit aussi se sentir un peu somnolent, mais attention, hein, pas au point de ne pouvoir garder les yeux ouverts. Bon, on doit se sentir aussi un peu ce que j'appellerais féeristique. Alors, les Écossais disent fantastique, et peut-être que c'est un plus joli mot. Si vous ne savez pas ce que cela veut dire, j'ai peur de pouvoir difficilement l'expliquer. Vous n'avez qu'à attendre d'en rencontrer une. Et alors vous comprendrez. Et la dernière condition, c'est que les grillons ne doivent pas grésiller. J'ai pas le temps de vous expliquer. Vous devez simplement faire confiance pour le moment. Donc, si toutes ces conditions se trouvent réunies, vous avez une bonne chance de voir une fée. En tout cas, c'est une bien meilleure chance que si elle ne l'était pas. Comme je me promenais paresseusement dans une clairière du bois, la première chose que je remarque fut un gros scarabée qui se débattait sur le dos et je mis un genou à terre pour aider la pauvre créature à se remettre sur pied. Dans certains cas, vous le savez, ce n'est pas sûr de ce qu'un insecte préfère. Par exemple, si j'étais une mythe, je ne sais pas si je préférerais qu'on m'éloigne d'une bougie ou qu'on me laisse voler droit dans la flamme et me brûler. Ou encore, si j'étais une araignée, je ne suis pas sûre que j'aimerais beaucoup voir ma toile arrachée et mes mouches perdues. Mais je suis absolument persuadée que si j'étais un scarabée tombé sur le dos, je serais toujours heureux qu'on m'aide à me remettre sur mes pattes. Ainsi, comme je le disais, j'avais un genou à terre et je venais de ramasser un petit bâton pour retourner le scarabée quand je vis une chose qui me fit reculer précipitamment en retenant mon souffle. De peur de faire du bruit et de chasser la petite créature en l'effrayant. Non pas qu'elle parut s'effrayer facilement, elle semblait si bonne et si gentille que je suis certain qu'elle ne se serait jamais attendue à ce que quelqu'un veuille lui faire du mal. Elle n'avait que quelques pouces de haut et elle était habillée en vert, si bien qu'elle passait presque inaperçue dans l'herbe, et elle était si délicate et gracieuse qu'elle semblait se confondre avec le sol, comme si elle était une fleur. Je peux vous dire en outre qu'elle n'avait pas d'ailes. Je ne crois pas aux fées ailées. Sylvie, donc, je trouvais son nom par la suite, s'était agenouillée exactement comme moi pour aider le scarabée, mais il lui fallait plus qu'un petit bâton pour le remettre sur pattes. Toute la force de ses deux bras suffisait à peine pour retourner la pesante créature. Et en même temps, elle lui parlait mi-grondeuse, mi-consolatrice, comme une nurse à un enfant qui vient de tomber. Voilà, voilà, ne pleurez pas comme ça. Vous n'êtes pas encore mort. Si vous l'étiez, vous ne pourriez pas pleurer, vous savez. C'est d'ailleurs une règle générale pour s'empêcher de pleurer, mon cher. Et comment avez-vous fait pour vous retrouver comme ça? Allons, je vois bien ce qui s'est passé, pas besoin de vous le demander. Vous marchiez dans cette sablière, le nez en l'air, comme d'habitude. Évidemment, si vous vous promenez dans des sablières de cette manière, il faut vous attendre à vous retrouver le ventre en l'air. Vous devriez regarder où vous marchez. Le scarabée murmura quelque chose qui ressemblait à « j'ai regardé ». Et Sylvie continua « je sais bien que non ». Vous ne regardez jamais devant vous. Vous marchez toujours le nez en l'air. Vous êtes tellement prétentieux. Bon, voyons combien de pattes cassées cette fois. Eh bien, aucune, je vous l'annonce. Et quel est l'avantage d'avoir 6 pattes, mon cher, si vous ne pouvez rien en faire que les agiter en l'air? Si vous ne le savez pas, les pattes sont faites pour marcher. Et rentrez-moi ces ailes. J'ai autre chose à vous dire. Allez trouver la grenouille qui habite derrière ce bouton d'or. Saluez-la de ma part, les salutations de Sylvie. Savez-vous dire salutations? Le scarabée essaya, et je pense réussit. Oui, c'est bien. Et dites-lui de vous donner de cette pommade que je lui ai laissée hier, et vous feriez mieux de lui demander aussi de vous frictionner avec. Elle a les mains plutôt froides, mais n'y faites pas attention. Là, il y eut un bref temps d'arrêt, et Sylvie ajouta, maintenant vous pouvez partir. Soyez un gentil scarabée et ne restez pas le nez en l'air. Et alors commença cette séance rituelle de bourdonnement, de claquements incessants, de sifflements à laquelle s'adonne un scarabée qui a décidé de s'envoler. Mais n'est pas encore certain de la direction qu'il va prendre. À la fin, au cours d'un de ces maladroits zigzags, il trouva moyen de me voler droit dans la face. Et quand je fus remis de ce choc, la petite fée était partie. Je cherchais la petite créature dans toutes les directions, mais il n'y avait pas de trace d'elle, et mon impression de fantastique avait disparu. Les grillons chantaient joyeusement, aussi je savais qu'elle était vraiment partie. Maintenant, j'ai le temps de vous parler de cette histoire de grillons. Ils cessent de grésiller quand une fée vient à passer. Je suppose que c'est parce qu'une fée est une sorte de reine pour eux. En tout cas, c'est une chose beaucoup plus importante qu'un grillon. Ainsi, chaque fois que vous vous promenez et que les grillons cessent de chanter, vous pouvez être sûr qu'ils ont aperçu une fée. Je poursuivis ma promenade assez tristement, vous pouvez me croire. Cependant, je me consolais en pensant, ça a été maintenant un merveilleux après-midi. Ça a été une merveilleuse 24 heures. Pour vous aussi? Ah, merveilleuse, a dit Saraga. Bon, je vais continuer tranquillement en regardant autour de moi et je ne serai pas étonnée de rencontrer une autre fée quelque part. En scrutant ainsi partout, je remarquais une plante aux feuilles arrondies avec d'étranges petits trous découpés au milieu de certaines d'entre elles. Ah, une mégachille, observai-je, insouciant. Vous savez que je suis très calée en histoire naturelle. Par exemple, je reconnais du premier coup d'œil un mouton d'un chaton. Et je continuais mon chemin quand une idée soudaine me fit me pencher pour examiner les feuilles. Un petit frisson de délice me parcourut alors, car je remarquais que les trous étaient disposés de telle manière qu'ils formaient des lettres. Il y avait 3 feuilles côte à côte portant B, R, U, Bru. Et après quelques recherches, j'en trouvais 2 autres avec N et O. C'est alors que, d'un seul coup, un éclair intérieur sembla illuminer une partie de ma vie qui était tout à fait tombée dans l'oubli. Les étranges visions que j'avais eues pendant mon séjour à Elvestone, Et avec un frisson de bonheur, je me dis, ces visions doivent avoir un rapport avec ma vie éveillée. En ce moment, le sentiment de fantastique m'était revenu et je remarquais brusquement que les grillons s'étaient tus. Aussi éprouvais-je la certitude que Bruno était quelque part, tout près. Et il était en effet, si près que j'avais failli le marcher dessus sans le voir, ce qui aurait été terrible, à supposer toujours que l'on puisse piétiner des êtres féeriques. Ma propre conviction est que les fées ont quelque chose en commun avec les feux follets et qu'il n'y a pas moyen de leur marcher dessus. Pensez à un joli garçon de votre connaissance, aux joues vermeilles, aux grands yeux bruns et à la chevelure brune en broussailles. Imaginez-le devenu assez petit pour tenir à son aise dans une tasse à café et vous aurez une très juste idée de Bruno. Quel est ton nom, mon petit ? Commençais-je d'une voix aussi douce que possible. À ce propos, pourquoi commençons-nous toujours par demander aux petits-enfants leur nom ? Bon, on n'aurait jamais l'idée de demander son nom à un grand et gros monsieur, n'est-ce pas ? Mais quoi qu'il en soit, j'avais absolument besoin de savoir son nom. Aussi, comme il n'avait pas répondu à ma question, je le répétais un peu plus fort. « Quel est ton nom, mon petit ? Et le tien ?» dit-il sans lever la tête. Je lui dis mon nom, très gentiment, car il était trop petit pour que je me mette en colère. « Duc de quelque chose ?» demanda-t-il en me regardant un instant et reprenant son travail. « Pas duc du tout, dis-je, un peu honteux d'avoir à l'avouer. Vous êtes assez gros pour être deux ducs, dit la petite créature. Je suppose que vous êtes le baron untel ?»« Non, dis-je, me sentant de plus en plus honteux, je n'ai aucun titre. » L'enfant fée sembla penser que, dans ce cas, je ne valais vraiment pas la peine que l'on me parle, car il se remit simplement à bêcher et à mettre des fleurs en pièces. Après quelques minutes, j'essayai à nouveau. « S'il vous plaît, dites-moi votre nom. »« Bruno, » répondit prestement le petit garçon. « Pourquoi vous n'avez pas dit s'il vous plaît tout de suite ?»« C'est le genre de choses qu'on apprend à la nurserie, » pensais-je en moi-même, revenant de longues années en arrière, une centaine environ, si vous tenez à le savoir. À l'époque où j'étais un petit enfant, c'est alors qu'une idée me vint et je lui demandais « Êtes-vous une de ces fées qui apprennent aux enfants à bien se tenir ?»«
Bien, nous devons le faire, parfois, et c'est terriblement ennuyeux. »
Ce disant, il déchira sauvagement une pensée et en piétina les morceaux. « Qu'est-ce que vous faites là, Bruno ? » dis-je. « J'abîme le jardin de Sylvie. » fut la réponse qu'il daigna me donner. Mais tout en continuant d'arracher les fleurs, il murmurait « La sale rosse ! Pour me laisser aller jouer ce matin, pas me laisser aller jouer ce matin, fallait que j'apprenne mes leçons d'abord, des leçons. Pff, vraiment, je lui ferai plein de chagrin, tant pis. »
« Oh Bruno, vous ne feriez pas cela, » m'écriai-je.
« Ignorez-vous que c'est de la vengeance, et que la vengeance est mauvaise, cruelle et dangereuse. Vendange ? » dit Bruno. « Quel drôle de mot. Je suppose que vous dites que c'est mauvais et dangereux parce que si on boit trop, on peut être ivre ?»«
Non, pas vendange, » expliquai-je. « Vengeance, » en disant le mot très lentement.
Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que l'explication de Bruno valait pour l'autre mot.
« Ah !» dit Bruno, ouvrant de grands yeux, mais sans essayer de répéter le mot.
« Allez, essayez de le dire, Bruno !» Et je l'encourageais gaiement. « Vengeance, vengeance !» Mais Bruno secoua la tête. Il ne pouvait pas, sa bouche n'avait pas la forme qu'il faut pour ces mots-là. Et plus je riais, plus il se renfrognait. « Bon, tant pis, mon petit. Puis-je vous aider dans votre travail ?»«
Oui, s'il vous plaît, »
dit Bruno tout à fait calmé. « Seulement, je voudrais trouver quelque chose qui la fâche encore plus. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est difficile de la mettre en colère. »
« Bien, écoutez-moi, Bruno, je vais vous apprendre une très jolie façon de vous venger. Quelque chose
qu'il lui fera une grosse peine ? Demanda-t-il les yeux brillants. Quelque chose qui lui fera une grosse peine. D'abord, nous allons enlever toutes les mauvaises herbes du jardin. Regardez, il y en a beaucoup dans ce coin. Elles cachent complètement les fleurs. Mais ça ne lui fera pas de peine, dit Bruno. Après, dis-je, en négligeant sa remarque, nous arroserons le parterre le plus élevé ici. Vous voyez, il devient tout sec et poussiéreux. Bruno me regarda avec curiosité, mais cette fois, il ne dit rien. Puis après cela, continuai-je, les allées ont besoin d'être un peu ratissées et je crois que vous devriez couper cette grande ortie. Elle est si près du jardin qu'elle est presque dans le chemin. Qu'est-ce que vous racontez ? M'interrompit Bruno impatiemment. Tout ça ne la fâchera pas du tout. Non ? Dis-je innocemment. Et encore après, si nous arrangions, ces cailloux de couleur pour marquer des divisions entre les différentes espèces de fleurs, vous comprenez ? Cela fait très joli. Bruno se retourna et me regarda encore une fois longuement. Enfin, il eut un drôle de petit clin d'œil et dit d'un ton tout à fait différent « Ça sera très joli. Faisons des rangées, toutes les rouges ensemble et tous les bleus ensemble. » « Cela ira admirablement, dis-je. Maintenant, dites-moi, quel genre de fleurs Sylvie préfère-t-elle ?» Bruno avait mis son pouce dans sa bouche et il réfléchit un moment avant de répondre. « Les violettes. » Si vous voulez connaître la suite, eh ben, il va falloir la lire tout seul. Parce que maintenant... J'avais envie quand même. Quoi ? Non. Tu voulais dire quoi ? Et ben voilà, puisque tout le monde dit Alice, Alice, Lewis, Alice, je craque et je vais sur le hit.
C'est Sylvie et Bruno.
C'est Sylvie. Ah oui, c'était. Je ne l'ai pas dit. Donc c'était un. Petit extrait de Sylvie et Bruno de Lewis Carroll, qui est le dernier livre publié.
Et qui est l'auteur de Alice.
Absolument. T'as reconnu Lewis Carroll dans Sylvie et Bruno. Et là, est-ce que tu vas reconnaître Sylvie et Bruno dans Lewis Carroll, dans Alice. Quelle sorte de gens vais-je rencontrer en ces parages ? Dans cette direction-ci, répondit le chat en faisant un vague geste de la patte droite, habite un chapelier. Et dans cette direction-là, ajouta-t-il en faisant le même geste de son autre patte, habite un lièvre de Mars. C'était pour faire hommage au mois de Mars. Vous pouvez, selon vos préférences, aller voir l'un ou l'autre. Ils sont tous les deux aussi fous. Mais je n'ai nulle envie d'aller chez des fous, fit remarquer Alice. Ah, vous ne sauriez faire autrement, dit le chat. Et si tout le monde est fou, je suis fou, vous êtes folle. Comment savez-vous que je suis folle ? Demanda Alice. Il faut croire, répondit le chat, que vous l'êtes. Sinon, vous ne seriez pas venue ici. Alice estima que ce n'était pas là une preuve suffisante. Néanmoins, elle poursuivit. Et comment savez-vous que vous êtes fou ? Et là, Rami, écoute bien parce que ça te concerne. Commençons, dit le chat par le commencement. Les chiens ne sont pas fous, vous l'admettez ? Apparemment, répondit Alice. Eh bien alors, poursuivit le chat, vous remarquerez que les chiens grondent quand ils sont en colère et remuent la queue quand ils sont contents. Or, moi, je gronde quand je suis content et je remue la queue quand je suis en colère, donc je suis fou. J'appelle cela ronronner et non pas gronder, objecta Alice. Appelez cela comme s'il vous plaira, dit le chat. Jouerez-vous au croquet aujourd'hui chez la reine ? J'en serais ravie, répondit Alice, mais jusqu'à présent, je n'y ai pas été invitée. Vous m'y verrez, dit le chat. Et il disparut. Près de l'entrée du jardin se dressait un grand rosier. Les roses qu'il couvrait étaient blanches, mais trois jardiniers s'affairaient à peindre ces roses en rouge. Alice se dit que c'était là une bien étrange occupation et elle s'approcha pour les regarder faire. Au moment où elle arrivait à leur hauteur, elle entendit l'un d'eux qui s'exclamait « Fais donc attention le 5, ne m'éclabousse pas comme ça !»« Ce n'est pas ma faute, » répliqua d'un ton maussade le 5, « c'est le 7 qui m'a poussé le coude. » En entendant cela, le 7 leva les yeux et dit « Félicitations le 5, toujours à prétendre que c'est la faute des autres. » « Toi, tu ferais mieux de te taire, » répliqua le 5. « Pas plus tard qu'hier, j'ai entendu la reine dire que tu méritais d'avoir la tête tranchée. »« Pourquoi cela ?» demanda celui qui avait parlé le premier. « Ça, le 2, ce ne sont pas tes oignons, » répondit le 7. « Pardon, ce sont justement les siens, » repartit le 5. « Et je vais lui répondre, c'est parce que le 7 avait apporté à la cuisinière des bulbes de tulipes au lieu des 10 oignons. » Le 7 jeta par terre son pinceau et il venait de dire « certes, de toutes les injustices, quand son regard se posa par hasard sur Alice, en train de les observer, il s'interrompit tout net. Les autres se retournèrent et tous trois s'inclinèrent très bas devant la petite fille. Voudriez-vous, je vous prie, me dire, demanda quelque peu intimidée Alice, pourquoi vous peignez les roses que voici ? Le 5 et le 7 restèrent quoi ? Se contentant de regarder le 2, ce dernier à voix basse, à voix. Eh bien, voyez-vous, mademoiselle, le fait est que ce rosier-ci eût dû être un rosier fleuri de roses rouges et que nous avons planté là, par erreur, un rosier blanc. Or, si la reine venait à s'en apercevoir, nous serions tous assurés d'avoir la tête tranchée. C'est pourquoi, voyez-vous, mademoiselle, nous faisons de notre mieux avant qu'elle arrive pour... À cet instant, le 5, qui depuis quelque temps surveillait d'un air inquiet le jardin, s'écria « La reine ! La reine !» Les trois jardiniers se jetèrent immédiatement à plat ventre sur le sol. On entendit un bruit qui semblait être produit sur... par les pas d'un grand nombre de personnes, et Alice, qui brûlait d'envie de voir la reine, se retourna. Alice se demanda si elle ne devait pas se prosterner devant eux, face contre terre, comme les trois jardiniers l'avaient fait. Mais elle ne put se rappeler d'avoir jamais entendu dire qu'il fût de règle d'agir ainsi au passage des cortèges. Du reste, se dit-elle, à quoi pourrait servir un cortège si les gens devaient tous se prosterner devant lui, face contre terre, et ne pas le voir passer ? Elle resta donc debout, là où elle se trouvait, et elle attendit. Quand les personnages qui formaient le cortège arrivèrent à la hauteur d'Alice, ils s'arrêtèrent tous pour la regarder. Et la reine demanda d'un ton de voix sévère « Qui est-ce donc ?» Elle s'adressait au valet de cœur qui, pour toute réponse, s'inclina en souriant. « Crétin !» s'exclama la reine en relevant la tête d'un air impatient. Puis se tournant vers Alice, elle poursuivit « Comment vous nommez-vous mon enfant ?»« Je me nomme Alice, s'il plaît à votre majesté, » répondit très poliment la fillette. Mais elle ajouta à part soi, « Ma foi, ces gens-là, après tout, ne sont qu'un jeu de cartes. Je n'ai nulle raison d'avoir peur d'eux. » Ça continue, ça continue, ça continue, il se passe des trucs, et tout d'un coup, la reine crie, « Savez-vous jouer au croquet ?» Les soldats se tenaient coi en regardant Alice, à qui la question évidemment s'adressait. « Oui !» cria Alice. « Venez donc alors !» rugit la reine. Et Alice se joignit au cortège en se demandant bien ce qui allait lui arriver. Ou ce qui allait se passer ensuite. « À vos places !» cria d'une voix de stentor la reine. Et les joueurs se mirent à courir dans toutes les directions en se cognant les uns contre les autres. Néanmoins, au bout d'une ou deux minutes, chacun se trouvait à son poste. Et la partie commença. Alice se dit qu'elle n'avait de sa vie vu un aussi bizarre terrain de croquet. Il n'était constitué que de creux et de bosses. Les boules, c'était des hérissons vivants et les maillets, des flamants vivants. Les soldats devaient se plier en deux, pieds et mains appuyés au sol, pour former les arceaux. La principale difficulté dès le début pour Alice eut trait au maniement de son flamant. Elle réussissait assez aisément à le tenir à bras-le-corps, les pattes pendantes, mais en général, au moment précis où, ayant obtenu un raidissement satisfaisant du cou de l'oiseau, elle s'apprêtait à lui faire frapper de la tête le hérisson, comme par un fait exprès, le flamand se retournait pour la regarder dans les yeux d'un air si intrigué qu'elle ne pouvait s'empêcher d'éclater de rire. Bon, les joueurs jouaient tous en même temps sans attendre leur tour. Ils ne cessaient de se quereller et de se disputer les hérissons. Au bout d'un très court laps de temps, la reine entra dans une furieuse colère et se mit à arpenter le terrain en trépignant et en criant à peu près une fois par minute « Que l'on tranche la tête à celui-ci, que l'on tranche la tête à celle-là !» Alice commençait à se sentir très mal à l'aise. Certes, elle ne s'était pas encore disputée avec la reine, mais elle savait que cela pouvait se produire à tout moment. Et alors, pensa-t-elle, qu'adviendra-t-il de moi? Ils sont terribles ici, avec leur manie de trancher la tête des gens. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait encore des survivants. Elle était en train de promener autour d'elle son regard, à la recherche de quelques moyens de s'enfuir. Et elle se demandait si elle pourrait s'éloigner sans que l'on s'en aperçût, lorsqu'elle remarqua dans les airs une étrange apparition. Celle-ci, tout d'abord, l'intrigua fort. Après l'avoir observée attentivement pendant une minute ou deux, elle comprit qu'il s'agissait d'un sourire. Et elle se dit, c'est le chat du Cheshire. Maintenant, je vais avoir quelqu'un avec qui causer. Que devenez-vous ? Demanda le chat dès qu'il eut assez de bouche pour parler. Alice attendit que les yeux du chat apparussent pour le saluer d'un signe de tête. Il est inutile de lui adresser la parole, pensa-t-elle, tant que ses oreilles ne se seront pas manifestées. En tout cas, tant que l'on ne verra pas au moins l'une d'elles. Une minute plus tard, la tête tout entière était visible. Alice posa alors par terre son flamant et entreprit de faire au chat un compte-rendu de la partie de croquet, toute heureuse qu'elle était d'avoir face à elle quelqu'un qui l'écoutait. Le chat jugea sans doute qu'une partie suffisante de sa personne était maintenant visible, car rien de plus de lui n'apparut. Je crois que ces gens pratiquent un jeu correct. Non, je ne crois pas, c'est ça. Je ne crois pas que ces gens pratiquent un jeu correct. Ils se disputent d'une façon si épouvantable que l'on ne s'entend plus parler. Et en outre, il semble qu'il n'y ait pour eux aucune règle précise. En tout cas, s'il existe des règles, nul ne les observe. Et vous ne sauriez imaginer combien il est troublant d'avoir affaire à tous ces accessoires vivants. Par exemple, l'arceau sous lequel vous passez, doit passer ma boule, est en train de se promener à l'autre bout du terrain. Et il y a tout juste un instant, j'aurais croqué le hérisson de la reine s'il n'eût pris la fuite en voyant arriver le mien. « Que pensez-vous de la reine ?» demanda à voix basse le chat. « Je ne l'aime pas du tout !» répondit Alice. « Elle est tellement... » À ce moment précis, elle vit que la reine se trouvait juste derrière eux et qu'elle les écoutait. Elle enchaîna donc, forte au jeu de croquet, que cela ne vaut même pas la peine de terminer contre elle la partie. La reine passa son chemin en souriant. « À qui donc parlez-vous ? » demanda le roi en s'approchant d'Alice et en regardant avec beaucoup de curiosité la tête du chat. « À l'un de mes amis, un chat du Cheshire, » dit Alice. « Permettez-moi de vous le présenter. »« Il a un air que je n'aime pas du tout, » répondit le roi. « en se cachant derrière Alice. Pourquoi, dit Alice, un chat ne regarderait-il pas un roi? Un chien regarde bien un évêque. J'ai lu ça dans un livre, mais je ne me rappelle plus lequel. Eh bien, il faut l'enlever d'ici, dit d'un air résolu le roi, et il interpella la reine qui passait à ce moment-là. Ma chère amie, je voudrais bien que vous fissiez enlever ce chat. La reine ne connaissait qu'une seule façon de résoudre toutes les difficultés, grandes ou petites. Qu'on lui tranche la tête, ordonna-t-elle sans même se retourner. Je vais moi-même aller chercher le bourreau, dit avec empressement le roi, et il s'éloigna en toute hâte. Alice pensait qu'elle ferait peut-être bien de retourner voir comment le jeu se déroulait quand elle entendit au loin la reine qui poussait des hurlements de fureur. Elle l'avait déjà entendu condamner 3 des joueurs à avoir la tête tranchée parce qu'ils avaient laissé passer leur tour et elle n'aimait pas du tout la tournure que prenaient les événements, car une telle confusion régnait dans le jeu qu'elle ne pouvait savoir si c'était ou non son tour de jouer. Elle s'en fut donc à la recherche de son hérisson. Celui-ci était en train de livrer bataille à l'un de ses congénères et Alice estima que c'était l'occasion ou jamais d'utiliser l'un d'eux pour croquer l'autre. Le seul ennui, c'était que son flamand était allé se réfugier à l'autre bout du jardin, où Alice pouvait le voir, qui s'efforçait désespérément de s'envoler pour s'aller percher sur l'un des arbres. Au moment où elle rejoignit le chat du Cheshire, elle eut la surprise de voir qu'une foule considérable entourait celui-ci. Une discussion s'était levée entre le bourreau, le roi et la reine, qui parlaient tous à la fois, tandis que tous les autres joueurs gardaient le silence et paraissaient très mal à l'aise. Dès qu'ils aperçurent Alice, les 3 antagonistes firent appel à son arbitrage pour le règlement de leurs différends, et chacun d'eux lui exposa son point de vue. Mais comme ils parlaient tous ensemble, elle eut beaucoup de mal à comprendre exactement ce qu'ils disaient. Le point de vue du bourreau, c'était que l'on ne pouvait trancher une tête en l'absence d'un corps d'où l'on pût la détacher, qu'il n'avait jamais eu jusqu'alors à faire rien de semblable et que ce n'était certainement pas à son âge qu'il allait commencer. Le point de vue du roi, c'était que tout être possédant une tête pouvait être décapité et qu'il fallait cesser de dire des sottises. Le point de vue de la reine, c'était que si l'on ne prenait pas une décision à l'instant même, elle allait faire exécuter tous les assistants. C'était cette façon d'envisager le problème qui avait si fort assombri et inquiéter l'assemblée. Alice ne trouva à dire qu'une chose. Il appartient à la duchesse. Vous feriez mieux de lui demander, à elle, son avis à ce sujet. Je redis la phrase parce que je ne l'avais pas comprise. Le chat appartient à la duchesse. Vous feriez mieux de lui demander, à elle, son avis à ce sujet. Elle est en prison, dit la reine. Allez l'y chercher, dit-elle au bourreau, et ramenez-la ici. Et le bourreau partit avec la rapidité d'une flèche. À l'instant où il s'éloignait, la tête du chat commença à s'effacer. Et lorsque le bourreau revint en compagnie de la duchesse, la dite tête avait complètement disparu. Voilà, je crois qu'on a eu nos 30 minutes de Lewis Carroll.
Ouais, super, merci beaucoup. C'était super cette lecture et bravo. Bravo.
C'était l'aube, c'était l'aurore et maintenant c'est le jour. C'était l'heure de Lewis Carroll. Merci à vous.
Merci beaucoup Sarah Chaud pour ces douces lectures du matin.
Merci à vous tous de m'avoir écouté.
Bah ouais,
d'avoir écouté super. Lewis.
Puis qu'est-ce que tu lis bien? Enfin, je veux dire. Non mais c'est vrai.
À 5h du matin, à 6h du matin.
Non mais c'est hyper agréable.
C'était vraiment super.
Oh, vous êtes... Très
charmant. Non mais vraiment c'est...
Et... Tout à fait, oui, ouais, ouais. Hein. Allons, ouais. Allons à Marseille. Bon, il est 7h, un truc comme ça. Hein.
Ça y est, il est 7h, il reste plus qu'une heure. Il reste une heure.
Il reste une heure.
Il reste une heure.
Bon, non, non, allez, voilà, bah, c'est les 24 heures de la matinée.
Ça y est, on en est à 24 heures.
Ce seront les 25
heures.
Les 25 heures de la matinale de Radio PSG Matin. Voilà, Bilal, il a ouvert. Enfin, il a ouvert. Non, il n'a pas ouvert. On l'a ouvert. Enfin, c'était ouvert.
Et on peut boire des cafés maintenant ? Alors, bah oui, je vois.
Et on peut boire un café, on peut boire un café, on peut faire... Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant cette dernière heure ?
Mais, hein ? Attendez juste, je voulais vous poser une petite question.
Les adieux, c'est la dernière demi-heure, a priori.
Vous qui avez... Vous avez un petit peu écouté la partie de Croquet ? Un
oui,
petit peu,
oui, ouais.
Ça vous rappelle pas quand même des...
Un film de Walt Disney.
Non, justement. Enfin, je ne sais pas si on vit en ce moment dans un film de Walt Disney. Peut-être que c'est ça qui se passe. Ça vous rappelle pas quand même des choses qu'on est en train de vivre de très près? C'est extraordinaire, non?
Quoi? Ah non, non, alors j'ai pas assez écouté.
Bon,
entendu.
Moi je vous relirai. Mais cette partie de Croquet et cette reine qui dit qu'on lui tranche la tête, et c'est d'un coup, en lisant ça, je me suis dit, mais... Quel visionnaire, ce Lewis Carroll, ouais. ou finalement, peut-être que toutes ces créatures funestes qui gouvernent aux manettes en ce moment ne sont que des créatures de Lewis. Enfin, je sais pas.
Tu penses à Donald Trump,
oui.
Qui vire tout
le oui. Et... Qui coupe la tête tout le temps.
Ah ouais. Ah oui, c'est vrai.
Et des petits rois et tout ça. Et je me disais, peut-être si je l'envisage sous cet angle, je vais comprendre. Je vais comprendre quelque chose de comment se composer avec ce monde. Voilà.
C'est pas étonnant. À mon avis, Donald, il a jamais lu, il a beau s'appeler Donald, il a jamais lu Alice au Pays des Merveilles.
Ouais, mais ce qui est beau, c'est que les Buscarons, lui, sait ce que c'est que le pouvoir.
Tiens,
ouais. Regarde, il y en a une.
Ce qui est beau... Bon, on s'en fout, j'ai pas dit une chose indispensable. Ce qui est beau, c'est que Lewis Carroll, lui, si Donald Trump n'a jamais lu Lewis Carroll, lui, il a vu Donald Trump et ses épigones, enfin, et c'est, enfin, on s'en fout.
Il y a des choses qui se... Il y a des gens à qui on ne devrait pas confier le...
Mais dis pas ça.
En plus...
Moi non plus, je suis pas sûre de l'usage.
Dans mon...
Épigone.
Dans mon souvenir, en tout cas dans le Walt Disney, la manière dont la reine, elle est mise en dessin,
ouais.
C'est un peu un Donald Trump.
Ah oui, ils l'ont fait exprès en fait, peut-être.
Ah bah, non, parce qu'il était... Walt Disney, il est très très vieux.
Non, mais la nouvelle version, c'est pas
Walt Disney.
Ah non, alors moi, pardon, je parlais de la vieille version. Walt la Disney, nouvelle version, j'en ai aucune idée, j'ai pas vu.
Disney,
le dessin animé, le vieux...
Non, je dirais... Non, est-ce qu'on serait pas dans le rêve et dans le cauchemar de Lewis Carroll? Et donc peut-être qu'il faut tous lire et Alice et Bruno et Alice et Bruno, j'ai dit. Et Sylvie, pardon Sylvie. Et Sylvie et Bruno et Alice pour comprendre comment s'en sortir.
Mais déjà, c'est d'abord la manière dont ils accèdent au pouvoir
qu'il faudrait changer, parce que Donald Trump, tout ça, parce qu'il a fait semblant d'avoir une otite et de se faire tirer dessus, et il a été réélu, je pense. Mais sinon, il était mal parti, Donald. Mais c'est la manière dont ils... Enfin, c'est pas l'heure pour parler de ça, mais... il y a peut-être... dans les grandes œuvres, il y a effectivement, pour lire aussi... Balzac ou Zola, à un autre niveau, il a dépeint la société. Voilà. Et comme l'être humain est... Dans moins de 3 secondes, je vais être chiant. Comme l'être humain n'a pas beaucoup d'imagination, il répète... Voilà, mais... Voilà, ça y est, je suis chiant. Je retourne en Vendée.
Il retourne en Vendée.
Oui, c'est chaud.
Ah. Oui, mais voilà, parce que si, et quand même, parlons un peu, faisons quelques analyses politiques là. C'est ça qui se passe le matin.
Moi, j'en ai eu.
Je ne suis pas du tout d'accord avec vous.
Que j'ai préparé
CHML,
ça.
CHML, non, une fois de plus.
Non, mais sur Walt Disney, notamment.
Ouais, c'est pas
parce que. En parlant du peuplement des imaginaires, mais aussi de l'aménagement du territoire, parce que, on le voit moins sous cet angle-là, mais c'était un urbaniste, un programmateur aussi beaucoup, et notamment l'aménagement de Paris et sa banlieue a pas mal été fait à son image ou selon son schéma de pensée, avec un centre-ville muséifié dans lequel finalement on ne s'arrête pas et dans lequel on ne vit pas, mais qu'on vient voir. un parc dans lequel on est censé s'amuser qui reproduit une ville pour de faux, donc voilà, in extenso, et puis un quartier de la défense des affaires, là où on va pour travailler, et du coup, une, entre les deux, des trains et des navettes qui font les différences. Donc c'est marrant de voir comment il a peuplé en même temps les imaginaires et comment en même temps ces schémas d'aménagement et de production du territoire ont été scrupuleusement mis en œuvre quasiment au pied de la lettre sur des immenses territoires et à l'image du bassin parisien qui, voilà, avec toutes ces migrations pendulaires en fait qui nous nivellent et qui nous terraforment de cette manière-là. Donc c'est pour moi, c'est beaucoup plus large que cela. Je me rappelle plus qui disait ça et qui avait écrit un très bon livre là-dessus. Mais pour moi, Walt Disney, c'est aussi large que ça. Et c'est une colonisation des imaginaires et de nos espaces comme on en fait, comme on en a rarement fait.
Mais là, on parle de... Pardon. Mais là...
Tu parles de Lewis... Ah, il fonctionne pas. Tu parles de Lewis de Walt Disney, mais là, enfin, c'est juste. Je veux juste dire, je veux redire encore parce que souvent, de plus en plus, on dit ah oui, Alice au pays des merveilles de Walt Disney, mais c'est Lewis Carroll l'auteur.
Oui, bien sûr. Mais comme tu disais, ta question, c'est vous trouvez pas qu'on est dans un monde qui ressemble à Walt Disney?
Non, j'ai dit qui ressemble. Enfin, j'ai pas dit Walt Disney, mais c'est pas grave.
Ah,
mais,
bah moi,
mais...
j'ai cru que t'as non, dit non, mais c'est dans pas un du monde qui est du Walt Disney. Et t'as pas dit ça?
Non. Mais c'est pas du tout grave. Oui,
non,
mais
de Lewis Carroll, ouais.
Mais c'est pas grave
du
tout.
Désolé.
Ah, mais c'est pas grave, c'est pas grave.
Moi, je suis trop facile.
Mais Lewis Carroll a pompé. Bah, il l'a. En fait, c'est Lewis Carroll. Je veux dire, c'est drôle parce que de plus en plus. Enfin, moi, je fréquente des enfants et souvent ils disent Alice de Walt Disney. Enfin, je veux dire que petit à petit, Lewis Carroll est comme presque.
Mais ça doit être pareil pour Blanche-Neige, non?
Tu dis, on dit pas Blanche-Neige de Grimm.
De Grimm ou de Perrault?
Je pense Blanche-Neige. Je sais pas. Tu veux qu'on... Enfin, moi, je dirais que c'est Grimm.
En tout cas, c'est Walt Disney, c'est sûr.
Ça dépend quelle version.
Bah, la version de Walt Disney.
Rappelez-moi quand vous parlerez du monde merveilleux des bisounours. Non, mais la version woke de Walt Disney. Vous saviez, quoi? Vous saviez, alors je ne vous prends pas pour des idiots, que Walt Disney avait reçu 8 Oscars. Et 7 petits pour représenter les nains. Bon, on va donner l'heure. Il est 7h13.
Ouais, ça c'est vrai.
Et ça porte bonheur.
On a mis près de 25 heures à dire un truc sensé. Il est 7h13.